R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Lasco est à Paris, le ventre ouvert, parois muqueuses. C'est pour la vie, être un ananas, ami avec une mangue et une fraise. En face sur le siège, il s'éponge le front de ce qui lui reste de son mouchoir en papier. En un clin d'œil, il aura disparu. Dans le bruit qui s'éloigne, une femme avec une combinaison rouge a pris sa place. Elle aussi disparaît dans ce que je n'ai pas eu le temps de regarder. Zèbre à fleurs, robe, grotte, l'agitation décoiffe tout le monde. En sueur, une grande cuillère de semoule, de viande, de légumes se dépeint en guise.
Bonjour Julien Creuset.
Salut Olivier.
Donc tu es l'artiste du mois de l'R22. Chaque mois on va accueillir un artiste pour parler un peu de son travail. Comme on est à la radio, on va parler aussi des aspects visuels du travail, mais aussi des aspects sonores, de la voix, de la parole, de la performance, des choses qui sont dans ton travail un peu à égal niveau des images.
On va tenter de les imager, ça c'est bien.
J'avais envie de commencer par un premier point, justement, c'est essayer de comprendre avec toi de quelle manière tu articules les pratiques un peu textuelles avec tes pratiques d'image. On sait dans ton travail, il y a souvent en fait un jeu d'images un peu multiples, des rapports multi-écrans, des rapports de format aussi qui se confrontent, des rapports de récits qui vont se parasiter. Et là vient la question du texte. Alors avant de parler de la question même de la voix et après plus tard aussi de la question de la chanson, je voulais qu'on parle d'abord de la question du texte, l'écriture de ton travail. Où ça vient, comment ça vient, comment ça traverse les autres formes.
Je crois que c'est avant tout le tout premier médium d'expression que j'ai pu utiliser dans ma jeunesse. Parce que j'écrivais des chansons et j'avais, avec des copains, un groupe de rap. On s'enregistrait sur cassette et c'était une première manière d'envisager un travail d'écriture. Puis après, il y a des choix qu'ils ont faits dans l'adolescence, au moment de faire des études. Et je choisis les arts visuels peut-être parce que j'y voyais un plus grand potentiel à faire et un plus grand peut-être devenir. C'est-à-dire un futur, ce que je ne voyais pas du tout dans la chanson. Et au fur et à mesure où je me mets à générer des formes visuelles, à produire des sculptures, des dessins, des installations, je me rends compte que la parole est quelque chose qui est important puisqu'elle me permet d'accompagner cet ensemble de formes, d'histoires, de les relier entre elles. Et au fur et à mesure, je découvre que je suis dans une pensée d'ensemble pour reprendre les idées d'Edouard Glissant dans un tout.
On pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose dans ton travail de textuel qui est un peu aussi une logique, je dirais, de flux, c'est-à-dire l'idée de l'écriture qui va traverser, qui va créer une espèce d'incise à travers différentes formes et aussi qui va fonctionner dans un rapport un peu de flow. Moi, je me rappelle de cette exposition qui était à la galerie Noisy-le-Sec, appelée « Scrolling Infini ». Et je trouve l'idée de scroll infini, comme ça, c'est aussi cette idée de flux à la fois infinité d'images, mais aussi une possibilité de penser le texte comme quelque chose qui, comme ça, crée un espèce de flux continu, n'est pas simplement pour arrêter le sens, mais pour traverser les formes.
Tout à fait. Et en même temps, j'ai envie juste de préciser des toutes petites choses. Très rapidement, dans cette manière d'accompagner les formes d'histoire, je me rends compte que j'endosse la figure du conteur ou du griot. Et ça, c'était assez drôle parce que c'est mon petit frère qui me dit « Mais mec, tu es un conteur ». Et à ce moment-là, moi, je prends conscience aussi de cette manière de pouvoir injecter des histoires au travers de formes et de médiums qui normalement sont censés uniquement se regarder, se ressentir par le mouvement du corps, par le déplacement d'un spectateur dans une exposition. Et je me rends compte aussi de quelque chose qui me pose problème, c'est que quand je ne suis pas là, quand je ne peux pas dialoguer avec l'autre, lui transmettre par l'oralité que se passe-t-il ? Et c'est là où la question de l'écriture devient importante, la question de ces titres qui vont devenir de plus en plus longs et qui vont se transformer en poèmes, qui vont devenir des pages entières, vont arriver parce que, à un moment donné, je pense que les œuvres aussi doivent pouvoir se regarder sans que moi je sois là à tenter de transmettre tout un ensemble d'histoires qui permettent d'entrevoir et de connecter les formes entre elles dans une exposition. Et ça devient intéressant parce que je me dis que ce texte et cette forme peuvent s'accompagner, que ce que dit le texte n'est pas illustration de la forme et la forme n'illustre pas le texte, et que ce texte devient une forme à part entière qui accompagne une forme telle qu'une sculpture, telle qu'un dessin, telle qu'une vidéo, et qui permet à ces deux formes de s'auto-complémenter, de s'entraider, de dialoguer, et du coup de pouvoir créer une interaction comme ça. Et au fur et à mesure, cela prend l'ensemble et l'idée d'une exposition dans son intégralité, dans toute sa mesure, dans toute sa mise en espace, et le texte devient une part entière du travail à ce moment-là, à partir du moment où il fait corps avec cette idée d'exposition. La mer s'est vidée, coupée en deux, coupée en deux, impact au contact de la respire étrangère. Sous la pluie battante, acide glaçant de la fonte, je feinte les perles, esquive les flaques. Je remonte le lit en pente jusqu'à la source jaillissante. Dans le ventre rouge du piton vert, dans le ventre rouge du piton vert, dans le ventre rouge du piton vert. Où la terre sous la mer, pays vert, pays vert, pays vert. Où la terre sous la mer, pays vert, pays vert. Sous la mer, pays vert, pays vert, pays vert. Où la terre sous la mer, pays vert, pays vert, pays vert. La mer s'est vidée, coupée en deux, coupée en deux. Dans l'impact au contact de la grosse pierre étrangère.
Mais alors du coup, j'aurais envie de rejoindre un autre aspect peut-être de cette manière d'agencer le sens entre des formes visuelles et du texte, ce serait de parler de, comme le ferait Éric Bulot par exemple, de film alors. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de film au sens élargi du terme, c'est-à-dire non pas la forme cinématographique simplement, mais la possibilité d'un récit image-texte étendu? Je sais que tu as été étudiant au Fresnois dans une partie de ton parcours. Est-ce que justement la question du film, pas forcément comme objet fini, mais ou comme pratique aussi, trouve une place dans cette espèce de relation un peu tendue que tu veux créer entre objet et narration ?
Le film est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est quand même un espace qui est immense, que peut construire un artiste ou un cinéaste, et peut-être qu'il n'y a pas de distinction à faire. Je pense que la distinction, ce sont des questions d'école. Mais c'est un espace immense où on peut faire intervenir aussi bien du texte, de l'image, de la sculpture, de la performance, de la poésie. Et c'est un espace qui permet par une structure de pouvoir entremêler différentes formes. On pourrait parler d'une exposition comme l'idée d'un film, ou on peut parler d'une exposition comme l'idée d'un livre, puisque aussi dans le livre, on peut faire interagir de l'image, du texte. On perd tout de même cette image en mouvement avec le livre, mais on peut structurer le livre aussi pour mettre en relation différents médiums et différents possibles. Mais je crois que je fais une distinction. Je conçois une exposition comme un monde à traverser. Et je me dis pas qu'il s'agit d'un film. À l'intérieur, je peux y injecter des formes qui se rapprochent du film ou qui sont des vidéos.
Par contre, dans le temps de l'exposition, par exemple, tu te retrouves dans un temps qui est non maîtrisé. Alors peut-être on peut passer à un autre aspect de ton travail qui est la pratique de performance, dans lequel là, l'apparition des images, leur rythme et aussi évidemment le temps du déroulement du récit sont beaucoup plus maîtrisés de ta part. Donc par rapport à l'exposition, ou même si tu injectes du texte, c'est vraiment un montage qui va être fait par le corps du spectateur. J'ai l'impression que avec la performance, tu reprends la main d'un récit que tu vas mener, qui pour moi n'est pas non plus qu'un récit de conteur. C'est-à-dire que c'est pas un récit que de sens, au sens de signification, mais aussi un récit de sens, au sens de ressenti. Ici, à l'Espace Chiasma, tu avais joué Ciel de Hara, qui est à la fois un travail sur la question du récit et du sens, de revenir sur une histoire méconnu et un travail aussi mythologique. Mais d'un autre côté, c'est aussi revenir sur quelque part la parole comme une mantra dans sa répétition, dans la manière dont elle va attraper le corps, quelque part l'entraîner dans un rapport de plus sensuel de la compréhension et pas non plus uniquement une compréhension d'une idée et d'un récit, mais vraiment d'une sensation que va provoquer la parole. J'ai l'impression que tu joues sur ces deux choses-là dans ta performance. À la fois sens au sens signification, à la fois quelque part presque une forme d'écologie, ou en tout cas une forme d'atmosphère dans laquelle tu englobes le spectateur.
Là, il y a un mot qui m'intéresse, effectivement, et je veux parler de la performance, mais dans une exposition, on peut construire un écosystème avec de l'image en mouvement, avec du son, avec de l'odeur, avec des objets. Et c'est aussi un monde qui peut s'appréhender seul, que je trouve aussi intéressant parce qu'on l'arpente comme on le souhaite, si on n'est pas aiguillé ou manipulé par quelqu'un, un médiateur, etc. Et tous les dispositifs qui sont possibles dans les lieux d'exposition. La performance ou la lecture performée est aussi quelque chose qui est intéressant puisque, et qui peut-être se rapproche du cinéma étendu parce qu'on est dans une temporalité très précise avec un début et une fin parce que le spectateur, lui, est placé en retrait et il y a une scène qui est donnée, un cadre qui est donné. Et le spectateur regarde ce corps en mouvement face à lui qui interagit avec un certain nombre de gestes et d'images et de sons. Et c'est aussi une manière de donner du réel. C'est là où l'idée du conteur ou l'idée du griot, qui était peut-être appliquée à des codes socioculturels très précis qui sont liés à des moments de festivité, des moments de tristesse comme un enterrement, comme une fête communale. Mais c'était aussi la volonté de pouvoir transmettre des choses du réel et de pouvoir les romancer à travers une manière de dire et une manière de transmettre et une manière d'interagir avec l'autre que je trouve intéressant. Je crois que être dans un acte performatif, c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est pouvoir avoir un contact direct avec l'autre. C'est une manière d'être en connexion directe et du coup de pouvoir profiter de ce moment pour tenter de transmettre un certain nombre de choses qui sont des choses à ressentir, oui.
Pour parler de cet acte de performance et pour venir un peu aux thématiques de ton travail, tout à l'heure tu disais, voilà, j'ai avancé une forme de pratique et puis mon petit frère m'a dit, mais tiens, un griot. Est-ce que tu te retrouves dans cette idée aussi que certains, éléments de même ton propre patrimoine intime, tu les retrouves finalement dans une pratique qui va être une pratique contemporaine, mais elles vont ressurgir en quelque sorte. Je sais que voilà, toutes ces questions qui vont toucher notamment à des pratiques culturelles des Antilles et de la Caraïbe en général. J'ai l'impression que ton travail, à la fois, elles vont être tout le long présentes à travers certains artefacts, objets ou pratiques, mais que finalement, souvent, ce qui va se cristalliser n'est pas toujours une chose qui est au départ, décidé. Par exemple, à un moment donné, c'est presque griot malgré soi, c'est-à-dire tu vas prendre un autre chemin et certaines formes vont revenir à travers ton corps. Et j'avais l'impression qu'avec ces performances-là, il y avait aussi l'idée de créer des conditions que quelque chose revienne dans le corps, pas simplement de décisions conscientes, mais aussi de sortes de sensations inconscientes, d'appartenance à une histoire, et une histoire qui peut être aussi pour partie un peu spectrale, qui rentre dans le corps de manière indirecte, comme ça.
C'est un point de vue intéressant que dans l'acte de performance, il puisse y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement une forme de lâcher prise, où il y a cette part d'inconscient, où il y a ces gestes qui sont convoqués pour se rapprocher de choses qu'on pourrait nommer comme l'idée de trans. Je pense que c'est des choses qui m'intéressent, et après, où je pense me situer, c'est sur le fil, parce que je me dois de garder aussi un contrôle de ce que j'ai envie de transmettre. Et l'idée n'est pas d'aller vers un non-contrôle total. Et...
Tu veux dire que c'est des formes qui sont quand même des formes très, très écrites et relativement maîtrisées, que tu répètes et que tu penses comme forme, je dirais, presque théâtrale ?
Je répète très peu, et d'une part, je ne tiens pas à apprendre par cœur le texte, ce qui me permet, moi, d'avoir une plus grande liberté, de pouvoir switcher. Et puis, j'ai cet outil que j'affectionne beaucoup, qui est aussi le téléphone ou la tablette, qui me permet de lire directement mon texte, mais qui me permet aussi de scroller et de switcher si je sens que ce texte n'est pas bon à dire au moment où je le lis, où je dois le lire, je le passe et je continue. Mais du coup, j'ai cette aisance de ne pas avoir un ensemble de papiers à la main et d'être dans des gestes liés au quotidien qui me permettent, moi, de jouer de tous ces paramètres aussi pour transmettre et dire un certain nombre de choses. C'est là aussi où on n'est pas dans le théâtre et on reste dans l'acte de performance, parce qu'il y a une construction qui se fait dans le réel et dans le moment qui est à vivre et qui est à partager avec les autres.
Alors après, il y a une chose que je retiens aussi dans ce que tu dis et qui pourrait revenir à cette question du pratique du corps, c'est la question digitale. Pour moi, la tablette comme le téléphone, c'est quelque chose qui va être quelque chose du toucher. Et Donna Haraway notamment a éclairé beaucoup sur l'idée de la fausse piste que peut-être la séparation entre l'homme et la machine à cet endroit-là, en considérant qu'il y a une écologie du toucher. Et que le digital, justement, est quelque chose qui, quand même, poursuit un geste du corps. Lire en pouvant, justement, repousser un texte ou le manipuler presque avec plus de physicalité, c'est aussi rester dans un acte presque du corps avec le texte, quoi. Le texte comme une matière qui peut être avancée, déplacée, voyager dans le temps, en quelque sorte.
Parce qu'on a une aisance à, effectivement, à manipuler le texte, à pouvoir cutter, choisir des morceaux ou pouvoir bénéficier d'un champ, d'un répertoire qui dispose d'un ensemble de textes, si on sent qu'il y a une transition à faire ou qu'il y a une relation à faire avec autre chose. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir comme ça avoir une espèce de boîte dans laquelle on a un ensemble d'éléments qu'on peut manipuler au moment où on est dans cet acte de performance.
Avec un rapport, tu veux dire, plutôt hypertextuel, où on peut sauter justement à partir d'un élément vers un autre, avoir quelque chose qui est plus... qui justement introduit une possibilité, si ce n'est d'improvisation, en tout cas de choses qui se passent dans l'instant et qui le réinscrit dans l'instant.
Tout à fait. Après, je crois que c'est ces outils qui permettent réellement de pouvoir fonctionner de cette manière.
Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis par rapport à ces écrans de lecture, c'est que pour le coup, ils se relient aussi très fortement, plastiquement, à ta démarche plastique, je veux dire, à un ensemble de pièces que j'ai pu voir de toi, où la question de l'écran, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire à la fois comme support de diffusion, mais aussi comme espace matériel, hein, où on peut graver, écrire, et même la question, je dirais même, des multiples écrans, donc un rapport avec les différents plans et écrans, est un vocabulaire aussi présent dans mon travail de sculpture. Donc du coup, cette lecture qui est à cette surface qu'on scrolle crée aussi un espèce de lien formel entre toute ta démarche.
C'est aussi beau les silences. J'aime bien prendre le temps. Et ces écrans, je crois que c'est une manière aussi d'architecturer un espace et de pouvoir y mettre tout un tas de fenêtres qui sont autant d'ailleurs possibles qu'on peut avoir dans un espace d'exposition. C'est là où ça devient intéressant de manipuler un certain nombre d'images ou de manipuler un certain nombre de textes qui usent de l'écran, qui usent de la forme vidéo. Après... Ce qui m'intéressait aussi avec cette question d'écran, c'est une espèce de sensation que j'ai qui est liée au design de ces écrans, qui sont des écrans qui maintenant sont des écrans miroirs et qui reflètent celui qui l'utilisateur. Et je crois que c'est totalement lié à nos manières de travailler ou d'envisager un travail de labeur, par exemple, dans un open space, et d'être face à un écran, un ordinateur en permanence. Et il me semble que pour éviter ce moment d'aliénation, il est important de ne pas être seul et du coup voir son reflet dans ses écrans miroirs face à son ordinateur. C'est en quelque part ne pas être seul. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse puisque j'ai l'impression que ces écrans miroirs ou ces verres noirs ont une genèse très lointaine puisqu'on va les retrouver dans des formes minérales comme l'obsidienne, qui est ce verre noir d'origine volcanique, qui a la même ressemblance qu'un écran d'ordinateur actuel, qui a cette même brillance, qui a cette même manière de refléter le corps. Et je crois que ça, non, j'en suis sûr d'ailleurs, ça a donné lieu à énormément de sculptures et de mythes, par exemple cette légende qui était liée à l'an 2000 avec les crânes en cristal, qui était totalement une légende et qui va donner ce titre du livre d'André Malraux qui parle de l'œuvre de Picasso avec la tête d'obsidienne. Je crois que c'est aussi une manière, cette pierre qui peut refléter, c'est aussi une manière de pouvoir s'échapper. Du coup, moi, c'est ce que je vois aussi dans ces objets du quotidien, comme le téléphone portable, comme l'ordinateur, comme la télévision. Et puis en même temps, ces objets ont une obsolescence, alors que ces pierres resteront toujours des pierres avec leur fonction de pierre et leur possible porte vers un ailleurs, vers un imaginaire. Et l'idée d'un écran mort est quelque chose qui m'intéresse puisque c'est un objet qui est incapable de produire à nouveau ou de nouveau des images.
Oh, ma statue de profil. Et défile le fil des images sans visage. Le flux débile à 10 balles. J'ai mal au scroll, je m'écroule, je frôle l'animal. Oma a bitch. Oma rabou. Au bout du bout. Au doux baiser. Statue de sel. Déchu au sol. Obus au ciel. Si désastre il y a. Allez la terre. Bourrasque sur Mars.
Je vais revenir au début. Au tout début, tu disais que tu as commencé en fait par une pratique d'écriture qui était donc une pratique d'écriture dans le cadre d'un groupe de rap. Aujourd'hui, tu fais toujours des chansons. Ça accompagne aussi ton parcours. C'est peut-être une espèce de voix parallèle, mais en tout cas qui y participe. Quelle différence il y a entre les chansons d'aujourd'hui et celles d'hier, alors du coup ?
Hier, je voulais faire... J'étais dans le mouvement et je voulais... faire du rap avec mes copains, et puis je trouvais dans le rap quelque chose qui est MMD, mélancolique, mélodique, dramatique, que je trouvais toujours assez touchant ou dans lequel j'avais l'impression de pouvoir trouver un espace de liberté qui était comme une manière d'exorciser ou une manière de pouvoir formuler des choses difficiles à dire. Et à cette époque, c'est une forme très structurée qui s'écrit avec un certain nombre de mesures, qui s'écrit avec un certain nombre de règles, avec des couplets, des refrains, des intros. Et en même temps, ce qui a été intéressant, c'est d'entrer dans une école d'art, de savoir et d'apprendre et de découvrir d'autres formes de musique, de découvrir la question du son, les nuances que l'on peut faire entre je fais du son ou je fais de la musique, qui me fait un peu rigoler, puisque je pense que c'est la différence, c'est une question de sensibilité, d'écoute, en vrai. On peut trouver une forme de musicalité dans la musique noise, et on peut trouver une forme de musicalité dans du drone, et en même temps on peut trouver de la musicalité dans la question du silence. Et je pense que la relation entre les arts plastiques et la musique devient intéressante, puisqu'elle va tenter de modifier aussi la construction musicale classique, qu'elle va tenter de modifier les instruments. Et du coup, moi je trouve ça met du temps, et je me consacre avant tout à la question de la forme physique ou de la forme à voir, et je continue en parallèle ces écritures de chansons, j'enregistre des copains, j'ai un petit home studio à la maison, je continue à faire des versions instrumentales, et j'arrive pas encore à faire le lien. Le lien vient au fur et à mesure, peut-être avec l'idée de la vidéo, où il y a cette question qui est fondamentale, qui est la relation entre l'image et le son, et qui se pose aussi au cinéma, et comment un son peut intervenir avec une image, comment ces sons ne sont pas obligés de s'accompagner et peuvent être en confrontation, ce qui devient aussi intéressant, comment on peut manipuler celui qui regarde en jouant de ces deux paramètres. Et c'est à ce moment-là où cette idée de la musique, on retrouve au fur et à mesure un espace à l'intérieur de ses formes. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette envie de pouvoir dire et de dire quand je ne suis pas là, aussi pouvait se résumer par un enregistrement de voix. Et puis, autant aller jusqu'au bout, puisqu'il y a quelque chose qui m'intéresse et dans lequel je trouve aussi du plaisir, et qui est cette idée d'être dans quelque chose qui pourrait s'appeler chanson, et en même temps qui peut être une forme beaucoup plus libre. Aujourd'hui, je sais pas si je fais exactement des chansons. Je pense que je fais des pièces sonores. Et peut-être que c'est une question de déformation qui est liée aussi aux études dans différentes écoles d'art.
J'ai l'impression aussi que ton écriture artistique est une écriture assez inclusive. Elle te permet de saisir des formes qui peuvent venir autant des esthétiques que des pratiques qui peuvent venir de cultures populaires, et de les réagencer en les étendant. On peut parler de l'écran qui ne fonctionne plus. J'ai presque envie de dire qu'après, c'est faire une chanson qui ne fonctionne plus. Si on prend le critère de fonctionner comme la notion d'un standard, c'est du couplet, du refrain ou de quelque chose qui emprunte une forme existante. C'est reprendre la chanson à l'endroit où elle ne fonctionne plus dans son évidence, mais où elle devient quelque chose qui a plus à voir avec des pratiques aussi de poésie contemporaine. On a l'impression que ça croît justement cette désir de la chanson comme quelque chose qui crée un espace et qui déclare quelque chose, mais après qui dérive, qui prend son temps, qui s'affranchit un peu des standards. Donc j'avais l'impression qu'il y avait cette idée-là, en fait, de l'objet à la fois dans un imaginaire populaire qui est là, et à la fois quelque chose qui est amené à un endroit où il ne fonctionne plus tout à fait comme il fonctionne dans l'économie classique de la culture.
La chanson, c'est un possible qui est formidable, parce que c'est quelque chose qui a une espèce d'immédiateté au corps, par sa musicalité, par la manière dont on arrive à joindre le texte, le chant, ou cette manière de dire qui s'approche du chant sur la musique. Et puis, c'est un espace où, par la question de la voix, à quelque chose qui, à mon sens, on a beaucoup perdu et qui est une forme de sensualité. Et je pense que cette forme populaire de la chanson, elle a encore cette capacité d'être sensuelle, de transmettre un certain nombre d'émotions de manière très frontale. Et c'est en ça où moi, j'ai beaucoup de plaisir à écouter une chanson aujourd'hui. C'est aussi pour ces raisons-là, et aussi pour ça que c'est quelque chose que je respecte et que je ne trouve pas qu'il soit une forme mineure. Et bien au contraire, je pense que c'est un espace que l'on peut tenter de structurer aussi autrement et que l'on peut transformer, modifier et pouvoir y injecter d'autres choses. Pour moi, il n'y a pas de différence entre une chanson et une pièce sonore à partir du moment où l'ambition de véritablement penser un objet, une forme, qui a aussi une dimension critique, je pense que c'est très important. Si on veut faire du business, on peut faire de la chanson, et cette chanson répond à tout un tas de critères. Mais je pense qu'à partir du moment où on injecte tout un tas de questionnements, de mouvements qui peuvent être liés et rencontrés, par exemple, des formes, comme dans le cadre d'une exposition, comme au moment d'une performance, je pense que c'est un format qui peut être très intéressant. Arrache les toits en tol des maisons. Plus froid, plus chaud, ainsi vaut la saison. 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 Coule la terre sous la mer, pays vert, pays vert, pays vert. Coule la terre sous la mer, pays vert, pays vert, pays vert. Coule la terre sous la mer.
Ce qui m'intéresse, c'est aussi cette question de réinvestissement de certains territoires, notamment le territoire émotionnel, et les questions d'adresse aussi, qui, dans le moment contemporain, en tout cas des pratiques de l'art, avaient été des choses dans lesquelles on s'était un peu éloigné à la faveur d'une approche plus conceptuelle et qui se voulait mettre à distance, justement, en fait, les pratiques émotionnelles populaires. Je trouve intéressant parce que c'est pas le seul travail que je constate aujourd'hui qui réinvestit ces potentiels-là, qui tente en tout cas de retrouver là-dedans quelque chose qui va être un accès un peu plus direct au corps, tout en essayant en tout cas de les étendre à d'autres manières de faire. Je voudrais simplement, pour terminer, revenir à... On a parlé tout à l'heure de cette performancielle de Hara que tu as donnée ici. Je sais que dans quelques jours, tu vas rejouer cette performance-là, ou la redonner autrement, dans le cadre de l'exposition Traversée ou du programme Hors Piste au Centre Pompidou. Du coup, là, tu parlais d'un format tout à fait différent, d'une pièce qui serait plus longue. Et donc, en quoi, justement, la reprise de certaines de pièces et le travail sur la question de la durée est un enjeu dans ton travail? Moi, j'ai vu plusieurs formes que tu as pu faire, et je vois aussi notamment que la question de la durée est un enjeu. Donc, qu'est-ce que tu cherches aussi dans les formats des performances en termes de situation avec le public? Parce que la question de la durée est un enjeu. Tout à l'heure, tu parlais de la chanson, et la chanson, c'est vraiment au départ quelque chose qui vient aussi d'un standard, c'est-à-dire d'une forme qui va avoir une durée donnée et qui va après se déconstruire.
Et en même temps, la chanson, quand elle prend cette dimension du live, devient complètement autre chose et gagne encore en liberté. Pour moi, la performance qu'il y a eu le 5 octobre à Kiasma, qui s'appelait Ciel Hara, c'est une étape de travail. Et c'est une étape dans un ensemble qui s'appelle Ricochet, les galets que nous sommes finiront par couler. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir une pensée d'ensemble avec une trame en tête qui me donne beaucoup de liberté et qui me donne de la liberté à produire, à faire, à construire, à réfléchir sur une période assez importante et dans laquelle je compose une histoire où je convoque un certain nombre de personnes et ces étapes sont cette performance à l'espace Kiasma me permet d'écrire une partie du texte qui viendra composer Ricochet, les galets que nous sommes finiront par couler, et en même temps ce texte se transforme en vidéo qui va exister au FRAC des Pays de la Loire sous la forme d'une installation avec un ensemble de sculptures. Et puis j'invite Barbara Siriex à écrire une histoire très précise sur la possibilité d'une navigation astronomique à l'heure actuelle, aujourd'hui à l'aide d'un téléphone portable, qui est aussi une histoire dans laquelle je vais trouver aussi beaucoup de liberté. Donc je l'invite en tant qu'auteur, et en même temps son texte va me permettre de générer d'autres vidéos, d'autres gestes, d'autres sculptures. J'invite Eva Barois de Cavel à écrire un texte sur une histoire qu'elle a vécue sur l'île de Gorée et la possibilité peut-être de s'y échapper pour aller à New York aujourd'hui. Et c'est aussi une manière de convoquer un espace dans lequel je vais trouver tout un ensemble de places pour générer à nouveau d'autres formes. Et cette manière de penser étape par étape me permet de faire des choses dans une temporalité plus longue parce que elle me serait impossible dans ma réalité économique de pouvoir la faire, dans, par exemple, le 5 octobre à l'espace Kiasma. Et j'ai besoin de tous ces déplacements, de toute cette temporalité, ce voyage étape par étape, aussi pour construire un ensemble qui trouvera sa toute fin, peut-être dans un moment d'exposition où je pourrais conclure cette pensée d'ensemble.
C'est une logique alors de travailler en archipel, on pourrait dire ?
Oui, que voilà, du bien coup, sûr, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça me permet, moi, de dresser ou de dessiner les pourtours d'une zone que j'ai envie d'approfondir, qui est le croisement ou la rencontre de trois histoires, et dedans de trouver de la place, de pouvoir générer un ensemble de choses. Et ça, c'est formidable parce que ça me donne beaucoup de liberté aussi. Et puis, c'est aussi une manière de pas faire une chose puis une autre et d'être comme ça dans un process aussi de vie et de tenter de construire des mondes, des ensembles, qu'après on pourra déterminer avec un ensemble de gestes, de sculptures, de voix, d'enregistrements. Peut-être même que notre discussion sera une partie qui pourra faire partie des archives de Ricochet les Galets que nous sommes finirons par couler. Et c'est en ça où la performance qui aura lieu vendredi n'est pas une reprise, en fait, mais est plutôt la possibilité à un moment donné de mettre en relation les trois voix que je voulais dans mon histoire et qui étaient cette voix qui parle des étoiles de Barbara, cette voix qui parle de cette île avec cette histoire douloureuse pour un Caraïbéen, par exemple, avec Eva, et puis la manière dont j'ai envie de relire une certaine histoire de l'art ou une certaine mythologie caraïbéenne.
Ben merci Julien.
Merci Olivier. Mmh.
Les mille bouts de plastique qui traînent, flottent en l'air, pas facile d'avancer en talons aiguilles. Tu es seul avec des bulles, du sable dans la campagne, le soleil rosé, le soleil champagne. Folle luciole, les lumières étiolent, tu perds tes flammes, étoiles mortes. Combien de temps avant le silence, terre tu pleures, belle tumeur. Le soleil rosé, le soleil champagne, le tigre abuse de tes vapeurs.